pour l'heure sur la radio du Monde. Il est 3h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
Édouard Dupenoit.
Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une première demi-heure africaine sur Radio France Internationale avec le journal d'abord et ses témoignages crus et traumatisés. Boniface Mwangi et Agathe Ratouahir, défenseurs des droits de l'homme, qui racontent comment les services tanzaniens les ont capturés, détenus, torturés, violés. Ils venaient assister au procès d'un opposant politique. Au Soudan, le camp d'Abdel Fattah al-Burhan essaye d'asseoir sa crédibilité politique. Le premier ministre civil, nommé au milieu du mois de mai, annonce la dissolution du gouvernement et de prochaines nominations de ministres, sauf que lui-même est très vivement contesté. Martin Fayoulou, opposant congolais, qui lance un appel à l'Union pour éviter la balkanisation, l'éclatement de la RDC, appel qui semble entendu du côté de la présidence à Kinshasa. La RDC, bientôt membre du Conseil de sécurité de l'ONU, les élections ont lieu demain, 2 sièges à pourvoir côté Afrique et 2 candidats pour le continent grâce au travail de consensus de l'UA. L'actualité africaine, c'est aussi ce plasticien de Madagascar exposé dans les allées du Met, l'un des musées les plus prestigieux du monde, et puis la fenêtre internationale qui s'ouvre pour les sélections de football. Leurs proches avaient d'abord évoqué les tortures subies par Boniface Mwangi et Agathe Ratouahir. Eux-mêmes prennent désormais la parole. Ces 2 défenseurs des droits humains, l'un est kényan, l'autre est ougandaise, ont été enlevés et détenus plusieurs jours en Tanzanie, il y a 2 semaines. Ils venaient assister au procès de l'opposant Tundu Lissu. Ils ont été retrouvés quasi abandonnés à leurs frontières respectives, et cela à 24 heures d'intervalle, avec de lourdes séquelles physiques. Des tortures sur lesquelles ils s'expriment donc publiquement, des humiliations, des coups, des viols dont ils rendent complice l'ensemble de la sous-région est-africaine. Récit Gaël Lalex.
C'est à leur hôtel que Boniface Mwangi et Agathe Ratouahir sont arrêtés. Après un passage à l'immigration, puis dans un poste de police, des agents de la sécurité intérieure viennent les chercher. Dans la nuit, les mains attachées, les yeux bandés, ils sont emmenés dans un immeuble inconnu. Là, ils seront dénudés, puis pendus la tête en bas. Boniface Mwangi.
Là, ils ont commencé à frapper violemment sur mes pieds, tout en me questionnant. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Pourquoi es-tu venu déstabiliser notre pays? Puis un type a mis du lubrifiant dans mon derrière et a commencé à insérer des objets. Et il me demandait de dire « merci Samia ». Alors j'ai remercié la présidente tanzanienne.
Non loin, Agathe Ratouahir subit exactement les mêmes sévices. Durant ces 3 jours de détention, l'ambassade ougandaise ne s'inquiète pas de son sort. Pour Agathe Ratouahir, c'est toute la région d'Afrique de l'Est qui est complice.
Je savais que le jour où je serais torturée viendrait. Je vis avec cette inquiétude en Ouganda. Mais je ne savais pas que ça arriverait en Tanzanie, où je n'ai absolument rien fait, même pas manifesté. Les officiels tanzaniens n'avaient pas peur du tout d'appeler des brutes pour faire ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, c'est un niveau d'impunité que je ne saurais imaginer. En tant que citoyen d'Afrique de l'Est, on ne peut compter que sur nous-mêmes.
Dans un communiqué hier, un collectif d'organisations de la société civile de la région a demandé à la communauté internationale de se mobiliser contre les violences d'État en Afrique de l'Est. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Le Soudan vit la pire catastrophe humanitaire du monde, c'est ce que dit le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, en ce moment à Marrakech, qui déplore, je le cite, l'ambiguïté, l'ambivalence, le manque de visibilité de cette crise à l'échelle mondiale. Et cela alors que ça fait plus de 2 ans que l'armée régulière et les forces paramilitaires du général Emeti se livrent une guerre sans pitié que l'une comme l'autre sont persuadées de pouvoir remporter militairement. Cela n'empêche pas le camp du général Abdel Fattah al-Burhan de tenter des coups politiques. Il a ainsi nommé un premier ministre il y a 2 semaines, Kamel Idriss. Lui vient de dissoudre le gouvernement en annonçant aussi de prochaines nominations dans les ministères. Mais quel crédit peut-on lui apporter, Ouda Ibrahim, alors que lui-même, Kamel Idriss, est très loin de faire consensus?
La mission du nouveau premier ministre soudanais s'avère très compliquée et semée d'embûches. Non seulement parce que l'effort nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires et pour reconstruire le Soudan est colossal, mais aussi et surtout parce que cette nomination n'a pas été le fruit d'un consensus national. Elle divise au sein même des forces communes qui soutiennent l'armée. Certains partis politiques refusent de nommer un premier ministre avant de mettre fin à la guerre. D'autres considèrent que la nomination d'un premier ministre par le chef de l'armée est illégal. Cette nomination de Kamel Idriss a cependant été saluée par un certain nombre de pays arabes et africains. L'armée, de son côté, affiche le caractère civil du nouveau Premier ministre. Pour plusieurs observateurs, cette nomination constitue une bouée de sauvetage pour l'armée, isolée sur la scène internationale depuis son coup de force contre le gouvernement Hamdok. L'adhésion du Soudan était également suspendue au sein de l'Union africaine. Khartoum espère ainsi reprendre l'initiative.
Ouda Ibrahim. L'opposant politique congolais Martin Fayoulou tente de jouer la carte de l'unité. L'ex-candidat malheureux de la présidentielle a lancé hier un nouvel appel médiatique, moins virulent que ceux qu'il propose d'ailleurs depuis plusieurs années. Il en appelle spécifiquement à trois personnalités. Le chef de la FCM23, groupe armé soutenu par le Rwanda, l'ancien président Joseph Kabila, de retour en RDC, justement dans la ville de Goma tenue par ce groupe, mais aussi l'actuel président Félix Tshisekedi.
Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Nous devons l'arrêter. Pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes. Monsieur Nanga, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe par patriotisme afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle.
Martin Fayoulou au micro RFI de Pauline Azidi, la porte-parole du président Tina Salama semble répondre déjà à cette main tendue en saluant le patriotisme de Martin Fayoulou et en affirmant que le chef de l'État est disposé à le rencontrer. Ça coince davantage en revanche dans le camp d'un autre opposant, Moïse Katumbi. Le porte-parole du parti Ensemble estime qu'il y a désormais en RDC une opposition de connivence. La République démocratique du Congo, par ailleurs, qui devrait, selon toute vraisemblance, intégrer demain le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faudrait un retournement de situation franchement improbable pour que ça n'arrive pas, puisqu'il y a deux sièges à pourvoir pour les pays africains et deux candidatures, la RDC donc, mais aussi le Libéria. Kinshasa n'avait pas siégé dans ce Conseil de sécurité depuis plus de 30 ans, Pauline Azidi.
Depuis 1992, la République démocratique du Congo n'a plus siégé aux Nations Unies. Mais face à la situation sécuritaire du pays, les autorités veulent désormais faire entendre leur voix. Le pays a donc mené une campagne durant plusieurs mois pour pousser cette candidature. Finalement, comme celle du Libéria, elle a été validée par l'Union africaine. Il n'y a donc pas beaucoup de suspense, comme le faisait remarquer un diplomate en poste à Kinshasa lors d'une cérémonie organisée quelques jours avant le vote. Ajoute tant que c'est le point fort de l'organisation continentale de parvenir à ce consensus autour des sièges à pourvoir. La RDC met en avant son expérience en matière de gestion des conflits, un pays tourné vers la coopération et la solidarité, affirme la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, mais qui entend aussi se servir de cette position pour plaider sa cause de pays agressé et tenter de faire bouger les lignes à New York. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La République démocratique du Congo, pays agressé, donc on vient de l'entendre, où les civils fuient par millions. Vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours sur RFI, il y a plus de 7 millions de déplacés internes à travers l'immense territoire congolais. Et pourtant, cette crise fait partie des plus négligées du monde, que ça soit en termes de financement pour répondre aux besoins de ces populations ou de lumière médiatique sur leur sort. Le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, documente année après année les 10 crises mondiales les plus oubliées. Il présente tout à l'heure à Dakar son rapport 2025, 10 pays, Amélie Tullet, 8 du continent africain.
En tête, le Cameroun, touché par 3 crises distinctes et prolongées, les groupes armés dans le nord, la violence dans les 2 régions anglophones et l'instabilité qui se propage depuis la Centrafrique à l'est. Ainsi, l'an passé, pour plus d'un million de déplacés internes et près d'un demi-million de réfugiés, moins de la moitié des besoins ont été couverts et la situation humanitaire du Cameroun a très peu retenu l'attention des médias. Un parfait exemple des effets de la négligence mondiale, selon le Norwegian Refugee Council. Viennent ensuite l'Éthiopie, le Mozambique, le Burkina Faso, le Mali, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Somalie. Seules exceptions non africaines dans ce classement, l'Iran et le Honduras. À noter que c'est la première fois que l'Ouganda apparaît, l'Ouganda qui joue un rôle de soupape dans la région, absorbant les retombées des crises voisines et accueillant des réfugiés congolais, soudanais, sud-soudanais. Malgré sa politique progressiste en faveur de ces réfugiés, l'Ouganda approche le point de rupture, selon l'ONG. Le nombre de réfugiés devant dépasser les 2 millions d'ici la fin de l'année, alors que les financements et l'attention de la communauté internationale ne cessent de baisser.
Amélie Tullet, un mot de la politique en Côte d'Ivoire, où la liste électorale définitive est prête. Annonce hier du président de la commission électorale, Ibrahim Koulibaly-Cuibière. Il y a 8 700 000 inscrits sur ce fichier. Ça fait 715 000 de plus par rapport à sa dernière révision il y a 2 ans. Fichier qui sera consultable notamment sur Internet à partir de demain mercredi.
RFI à Antananarive, 96 FM.
Un artiste malgache dans l'un des plus prestigieux musées du monde. La suite de ce journal entre Antananarive donc et New York, le Met, le Metropolitan Museum of Arts, qui accueille désormais 3 œuvres de Joël Anjanoumearissou, sans doute le plasticien le plus connu de la Grande Île. Sa série la plus célèbre, Les Herbes Folles du Vieux Logis, représente de très fines bandes de textiles compactées les unes aux autres. Et ce sont 3 œuvres de cette série qui intègrent les allées fraîchement rénovées de l'aile Afrique du Met. Toute première fois donc pour un artiste malgache, Pauline Le Troquier.
Comme des lames souples, des bandes de tissu déferlent à la verticale. Sur fond noir, elles découpent subtilement l'œuvre par un dégradé de tons dorés, ocre et brun empruntés aux terres de la Grande Île. La pièce textile intègre aux côtés de 2 de ses dessins préparatoires les galeries du Met sur un don d'Asna Niavaroussen, homme d'affaires malgache, ami et mécène de l'artiste. Comme toujours, raconte Joël Anjanoumearissou, son œuvre s'enracine à Madagascar, mais s'ancre résolument ailleurs.
Les textiles sont, en fait, viennent du monde entier. Il y a plusieurs géographies qui interviennent en termes de texture et en termes de qualité de textiles, mais tout se retrouve à Madagascar pour la fabrication et la production de l'œuvre.
Pour l'artiste, l'entrée d'un nom malgache au musée new-yorkais n'est pas une fin en soi. Ce qui compte le plus, dit-il, c'est bien la reconnaissance de l'art contemporain au sein d'une collection d'art africain.
Le Met n'est pas un musée d'art contemporain directement. Et justement, dans ces galeries, la vraie question aujourd'hui, c'est de rentrer dans cette collection en étant vivant et en étant encore aussi actif. C'est de confronter aujourd'hui des œuvres patrimoniales qui sont figées dans un temps, avec des œuvres contemporaines. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet de nouveauté.
Joël Anjanoumearissou confirme son rôle de locomotive dans l'affirmation d'une scène artistique malgache à travers le monde et à l'intérieur même du pays, où il a cofondé le plus grand centre dédié à l'accompagnement de ses talents. Pauline Troquier, Antananarive. RFI.
Encore quelques pirouettes pour prolonger l'état de grâce. Ousmane Dembélé, le Parisien champion d'Europe, cheville ouvrière du parcours du PSG, est venu présenter la coupe aux grandes oreilles sur la terre battue de Roland-Garros. Les spectateurs du cours Philippe Châtrier, déjà galvanisés par la victoire inattendue de la jeune française Loïs Boisson, ont eu droit hier à la présentation du trophée de la Ligue des Champions. Remporté samedi soir 5-0 par Paris face à l'Inter Milan. Voilà maintenant que s'ouvre une fenêtre de matchs internationaux pour les sélections. Sans enjeu de qualification pour une quelconque compétition, ce sont simplement des matchs amicaux. Une fenêtre que plusieurs cadors du continent africain vont plutôt mettre à profit pour se reposer. Sofiane Amazian, qui ne verra-t-on pas sous les maillots nationaux ?
Prendre un peu de repos ou disputer des matchs amicaux avec la sélection. C'est le choix cornélien soumis à certains cadres, comme l'attaquant nigérian Victor Osimhen, qui avec 26 buts en championnat, a retrouvé le sourire en Turquie du côté de Galatasaray, l'ancien buteur de Naples, qui affolera le mercato estival, n'a pas été sélectionné. Même situation pour le meilleur joueur camerounais de l'année, Brian Bemo, valeur sûre du championnat anglais avec Brentford, et laissé de côté par Marc Brice pour ce rassemblement, le Belge, privilégiant les jeunes pousses de la tanière. Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine de la sélection gabonaise, ne sera pas là, tout comme son compatriote Denis Bouanga, qui doit prendre part à la Coupe du Monde des clubs à la mi-juin. L'ailier gabonais a qualifié son équipe des Los Angeles FC en inscrivant le but victorieux contre les Mexicains de Club América. Seul joueur absent pour une raison précise, Sadio Mané, 33 ans, star de l'équipe sénégalaise, non retenu pour des raisons personnelles, a déclaré son sélectionneur Pape Thiaw. Enfin, lui n'a pas la possibilité de rejoindre les siens. L'attaquant guinéen du Borussia Dortmund, Serou Guirassy, peut prendre quelques vacances. Le ministère des Sports a décidé d'annuler le rassemblement, le jugeant dispensable.
Sofiane Amazian, merci beaucoup. Toute l'actualité sportive ce matin, c'est dans une heure au complet. Et c'est avec Olivier Pron. Pour l'heure, à Paris, il est 5h44.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur rfi.fr. Afrique Matin sur RFI.
Édouard Dupenoit.
Et 3h44 en temps universel. D'ici au prochain journal de 4h TU, nous sommes à La Réunion et à Mayotte. Avec les journalistes de La Première, un incendie ravage une partie d'un collège sur la commune réunionnaise de Saint-André. Le pétrole n'a jamais stagné aussi bas depuis que le monde s'est mis à l'arrêt au moment du Covid. Agnieszka Kumor nous l'explique aussi dans quelques minutes. Qu'ils sont bas aussi les stocks de poissons au Maroc. Dossier Afrique Éco dans vers 3h50 en temps universel. Quelques notes de jazz d'abord dans le reportage de la rédaction et une première escale à Tunis puisque c'était le Jazzit Festival à la Cité de la Culture. Un premier coup d'essai, mais déjà des centaines de curieux et d'amoureux de la musique. On a pu y voir des concerts bien sûr, mais pas seulement. Les organisateurs sont partis d'un constat simple, il y a un terreau pour le jazz en Tunisie, mais pas de structure, pas de formation ni de label. L'idée c'était donc aussi de faire se rencontrer des passionnés, et Lilia Blaise évidemment ne pouvait pas manquer ça.
Devant un public de jeunes musiciens tunisiens, le guitariste américain Mark Whitfield présente une masterclass. Au programme, conseils et exemples de composition. Pour Malek Larroy, musicien de jazz et directeur artistique du festival, avec le label Jazzit Records, il s'agit de perpétuer une tradition de culture du jazz en Tunisie qui avait commencé avec le festival de jazz à Tabarka en 1973.
Et moi j'ai grandi dans cette ambiance de masterclass, d'after show. Et donc ça pour moi, c'est ça la liberté quoi, c'est que véhicule cette musique, l'union quoi. Et c'est ce qu'on veut vraiment véhiculer à travers ce festival.
Il souhaite aider la scène jazz tunisienne à se renforcer.
Pour nous, la scène n'est pas assez structurée, il n'y a pas de label. Et c'est vrai que pour les circonstances, les conditions, l'environnement, il est pas, presque hostile, très difficile quoi. Pour la création d'un label, économiquement c'est difficile, la distribution est très compliquée, le manque de festivals. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges par rapport à ça.
Neder, 24 ans, étudiant à l'Institut supérieur de musique, improvise avec ses camarades à la guitare.
Je cherche toujours des masterclass ou des sessions de jam pour la technique et l'inspiration. Même s'il existe quelques maîtres du jazz tunisien, ce n'est pas vraiment une musique qu'on apprend au conservatoire. Il n'y a pas de formation. C'est surtout un apprentissage en autodidacte.
Si le jazz reste confidentiel en Tunisie, une jeune génération de musiciens espère percer dans le pays, comme Ahmed Dridi, 29 ans, originaire de Zaouen, au nord de la Tunisie.
On est motivé, même si la culture du jazz n'est pas hyper répandue, mais c'est plus par ignorance que par manque d'intérêt pour cette musique. Par exemple, si j'invite des amis à voir des lives de jazz, au début ils viennent sans vraiment connaître, mais après ils reviennent. Et au sein des jeunes, il se crée une communauté d'amateurs.
Et pour encourager cette dynamique, le jeune musicien Aymen Difawi, 27 ans et originaire de Kairouan, et monter sur scène pour échanger quelques sons de guitare avec le légendaire Mark Whitfield à la clôture du festival. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Il est 4h48 à Séoul. Ah, 4h48 à Tunis. À Séoul, il est midi 48 justement. Avec la Corée du Sud à la une de l'actualité internationale de ce 3 juin 2025, 44 millions d'électeurs qui ont commencé à voter pour désigner leur nouveau président, pour mettre fin aussi à 6 mois de chaos politique causé par la tentative ratée du précédent chef de l'État, Yoon Suk-yeol, d'imposer la loi martiale. Les bureaux de vote ferment tout à l'heure, 11h TU, moment où les premiers sondages de sortie des urnes devraient dévoiler le probable vainqueur. Le chef de l'opposition de centre-gauche, Lee Jae-myung, était crédité de 49% des suffrages dans le dernier sondage, contre 35% pour le conservateur Kim Moon-soo. Antonio Guterres appelle à une enquête indépendante sur des tirs qui ont fait au moins 31 morts et 176 blessés près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, la défense civile palestinienne a annoncé la mort hier de 14 personnes, parmi lesquelles 6 enfants et 3 femmes, en plus des 20 personnes qui se trouvent encore sous les décombres. Tout cela après un bombardement israélien sur une habitation à Jabalia, dans le nord de Gaza. À Istanbul, Russes et Ukrainiens sont convenus d'échanger tous leurs prisonniers de guerre de moins de 25 ans ou grièvement blessés, ainsi que des milliers de corps de soldats tués, mais sans parvenir à s'accorder plus avant sur un cessez-le-feu. Ces discussions sous médiation turque n'ont duré qu'une heure, mais l'Ukraine a proposé une nouvelle rencontre à la Russie entre le 20 et le 30 juin. Et puis le Premier ministre polonais Donald Tusk va demander prochainement la confiance au Parlement après la victoire du candidat d'opposition nationaliste Karol Nawrocki à l'élection présidentielle de dimanche. Les prochaines élections législatives sont prévues en Pologne dans 2 ans. Retour donc dans le nord du continent africain pour le dossier Afrique Économie, avec le Maroc qui ne remonte plus grand-chose dans ses filets. Le Royaume, c'est par exemple le premier producteur mondial de sardines. C'est aussi le premier producteur africain de produits de la mer. Mais les faits sont là, les chiffres sont têtus. Il y a de moins en moins de poissons. Côté Méditerranée, par exemple, on note une production en baisse de 20, parfois même de 30%. Sachant aussi que 80% des captures sont remontées depuis les eaux du Sahara occidental. Notre correspondant François Humfer Katadji est allé le constater par lui-même.
Dans le port de Bouche-Dour, les pirogues colorées des pêcheurs artisanaux côtoient les chalutiers spécialisés dans la capture de la sardine et du maquereau. Tous les pêcheurs font le même constat. Malgré l'augmentation du nombre d'unités de pêche, le poisson se fait rare.
Tout à fait. Ces changements climatiques, ils ont un petit peu impacté, je dirais, le stock. Et non pas le stock, mais plutôt les conditions de pêcherie de ce type de poisson, qui c'est le pélagique.
Ismaël Benazouz, chef division de développement à l'Agence nationale des ports.
Je pense que, à travers le plan d'aménagement initié par le département de pêche et l'Institut de recherche halieutique, et à travers les campagnes de repos, là, sont destinées effectivement pour préserver la ressource halieutique et de gérer cette rareté qu'on espère. Espérant qu'elle soit temporelle.
Pour Badr al-Moussaoui, président de la commune d'El Marsalayoun et patron d'une des 45 conserveries de poissons de la région, la question de la raréfaction des ressources se pose. Le volume du poisson pêché a diminué d'un tiers entre 2024 et 2023 à l'Ayoun.
Ça fait 2 ans maintenant que les chiffres en baissent, surtout sur le débarquement de la pêche, surtout dans le poisson biologique, mais on trouve que c'est tout à fait que c'est normal, c'est à cause de la changement climatique.
Selon les experts, le changement climatique n'est pas le seul facteur pour expliquer la raréfaction des ressources. La surpêche ou encore les effets des usines de dessalement pourraient participer à la diminution des stocks. Conserves, huile ou farine de poisson. Au Maroc, 500 000 emplois directs ou indirects sont liés au secteur. Le maire de Darla, Erakheb Armotola, se veut toutefois rassurant.
C'est une question toujours avec l'évolution de la population, avec l'évolution de la demande cruciale pour la pêche. Mais il y a tout un programme lancé par le ministère de l'Agriculture et de Pêche concernant la préservation de ces ressources-là.
Dans un autre registre, la situation politique du territoire, considérée comme non autonome par l'ONU, pèse aussi sur le secteur. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'année dernière l'annulation des accords de pêche entre le Maroc et l'UE, estimant qu'ils avaient été établis, je cite, « sans le consentement du peuple du Sahara occidental ». François Humfer Katadji, de retour de Bouche-Dour et l'Ayoun, RFI.
Dossier Afrique Éco que vous réécoutez quand vous voulez sur notre application dédiée RFI Pure Radio. L'économie et une autre ressource fossile, celle-là, le pétrole, dont les prix sont particulièrement bas, 65 dollars le baril de Brent de la mer du Nord. Et ça n'augmente décidément pas, on n'avait pas vu ça depuis mars 2020 et la crise du Covid. Pour les consommateurs occidentaux, c'est une aubaine pour le plein de la voiture. Agnieszka Kumor, comment peut-on expliquer des prix aussi faibles ?
C'est le résultat d'un changement de politique de la part des pays de l'OPEP+. Alors qu'il y a 2 ans, cette organisation qui regroupe les pays producteurs de pétrole et leurs alliés avait réduit l'offre volontairement en espérant faire monter les prix, elle a décidé en avril dernier de rouvrir les vannes. Et là, il y a 3 jours, l'OPEP+ a même décidé d'augmenter encore les volumes d'or noir mis sur le marché. Selon les observateurs, c'est Riyad qui serait derrière ce changement de cap surprise. C'est l'Arabie Saoudite, en effet, qui avait fait comprendre début mai qu'elle pouvait supporter une baisse des prix pendant une période prolongée. L'Arabie Saoudite semble se plier aux requêtes de Donald Trump. Peu après sa prise de fonction, le président américain avait demandé à son allié de produire davantage pour faire baisser les prix de l'or noir et par ricochet les prix à la pompe pour les consommateurs américains. Mais cette stratégie n'est pas sans conséquence sur le secteur du schiste aux États-Unis. Confronté à une accumulation de pétrole sur les marchés, les foreurs de schiste américains ont dû arrêter plusieurs de leurs plateformes pour faire face à la chute des prix. On s'attend à une baisse de production américaine de 1,1% l'année prochaine à 13,3 millions de barils par jour. Ces producteurs de pétrole de schiste qui avaient fait des États-Unis le plus grand producteur producteur mondial d'or noir se retrouvent aujourd'hui devant la première crise majeure de leur secteur. Si les prix du brut devaient descendre à $50, la production américaine pourrait perdre jusqu'à 300 000 barils par jour, soit plus que la production totale de certains petits pays membres de l'OPEP+. Les compagnies américaines ne pourront clairement pas suivre, des suppressions d'emplois ont déjà commencé.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. L'actualité internationale de retour dans tout juste 5 minutes sur la Radio du Monde. Nous sommes d'abord dans les territoires français de l'océan Indien avec les journalistes du réseau La Première. Un incendie a ravagé ce week-end un collège de Saint-André dans l'est de la Réunion. 11 salles de classe sont inutilisables. Les locaux de la vie scolaire ont été aussi dévastés. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans l'un de ces secteurs que l'on qualifie pudiquement de sensibles. Et cela n'a donc pas vraiment étonné le personnel de l'établissement qui s'est mis en grève hier et qui affirme avoir tiré à de nombreuses reprises la sonnette d'alarme. Reportage Laura Philippon.
Au-delà de l'incendie, les enseignants dénoncent des violences quotidiennes dans le collège et aux abords. Corinne Huette est professeure d'espagnol et représentante de la FSU.
Chaque jour, en fait, on a des incivilités, on a des intrusions à l'intérieur du collège, des armes qui sont cachées. Donc, à un moment donné, voilà, c'est bon.
Madia est en cinquième, c'est son dernier jour à Fayard. Elle va partir car elle trouve son collège trop dangereux.
Il y a déjà eu des menaces de mort avec des gens, il y a beaucoup eu de bagarres. C'est que j'aime pas dans le collège.
Le collège est classé en REP. Les enseignants demandent son passage en REP+, et les moyens qui vont avec. La principale, Patricia Sacco, est du même avis.
Les indicateurs, qu'ils soient scolaires ou sociaux, font que cet établissement devrait être classé en REP+. C'est une revendication légitime, puisqu'il y a une pénibilité de travail dans cet établissement, que la difficulté scolaire est importante.
Pour le député de cette circonscription, Frédéric Maillot, au-delà du collège, l'État doit surtout aider au développement du quartier.
On a besoin que ce cadre, cette éducation nous retrouve dans l'école, et bien que l'île n'est pas dissous, que l'île n'est pas évaporée quand il arrive dans le quartier.
Un quartier encore sous le choc. Au collège, une cellule psychologique est en place.
Direction Mayotte, au lendemain de la visite dans son île natale du secrétaire d'État à la francophonie, Tani Mohamed Swali, et du secrétaire d'État kényan aux affaires étrangères, un premier bilan fait état de la signature de plusieurs accords de partenariat win-win, gagnant-gagnant en bon français, et d'une visite, c'était vendredi dernier, dans le data center du département 101, l'occasion d'évoquer des échanges entre le Kenya et Mayotte dans le domaine du numérique, comme l'explique Masundi Aoutani, directrice de Mayotte InTech, au micro d'Alda Alidi.
En termes de formation, nous savons que Kenya est en avance. Ils ont énormément de compétences dans tout ce qui est les formations, dans tout ce qui est data center, les techniciens. Et à Mayotte, on a besoin de pouvoir envoyer nos étudiants là-bas pour pouvoir suivre des formations et avoir des certifications aussi et venir exercer à Mayotte. Autre chose, c'est qu'à Mayotte, on a aussi un écosystème de start-up qui sont localement, mais qui n'arrivent pas à être incubés au niveau local, alors qu'au Kenya, ils peuvent être incubés parce que les incubateurs qui accompagnent les start-up dans tout ce qui concerne l'innovation, l'intelligence artificielle, il y en a pas mal là-bas et on peut très bien en faire profiter à nos startups.
Et puisque nous sommes à Mayotte, sachez que le département a été placé, c'est officiel, en phase d'épidémie pour le chikungunya. Le virus circulerait sur la totalité du territoire avec une concentration persistante des cas dans les communes de Mamoudzou, Pamanzi, Dzaoudzi. C'est ce que précise Santé publique France, qui note que le nombre de cas est peut-être sous-estimé en l'absence de recours systématique aux tests de confirmation biologique du chikungunya. Une campagne de vaccination ciblée sur la population adulte à risque va en tout cas être lancée. La campagne concernera les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité. Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Benoît Ferrand. Bonne journée à vous et à tous les journalistes de La Première. C'est la fin aussi de cette édition africaine. Afrique Matin, ce sont Laurent Hérault à la réalisation ce matin, Pierre Pinto à la rédaction en chef de l'information. Et Sébastien Duhamel aussi qui vous accompagne pour la prochaine édition. Rendez-vous 4h30, temps universel, Afrique Matin. C'est vous aussi qui nous écrivez sur africematin@rfi.fr. Jacques Kachika, vous êtes à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Vous nous suivez tous les jours et vous nous le dites. RFI, c'est votre radio préférée. On en est très fiers et très honorés. Merci beaucoup de votre confiance. Le journal revient dans 30 secondes.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les bains publics disparaissent, mais pas partout. Quand l'eau courante ne va pas de soi, comment se laver en ville ?
Demain,
la curiosité, l'esprit scientifique des enfants sont sans limite. Mais savons-nous les cultiver ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.